Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Je profite aussi de cette première émission de 2021 pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et cette nouvelle année a commencé par un événement, une séparation quasi complète entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Car après s'être séparé politiquement de l'Union européenne le 1er février 2020, le Royaume-Uni a désormais également quitté le marché unique le 1er janvier 2021. C'est la fin du long feuilleton du Brexit qui avait débuté avec le référendum il y a déjà plus de 4 ans. Malgré des rebondissements multiples et une crise pandémique qui n'en finit pas, Britanniques et Européens ont donc finalement trouvé un accord commercial et de coopération. Après 48 ans d'une relation tumultueuse, le Royaume-Uni et l'Union Européenne se séparent et évitent une rupture brutale en signant cet accord de près de 1300 pages qui encadre donc leur relation future. Cet accord marque le divorce à l'amiable en évitant le no deal, mais règle-t-il tous les problèmes ? Pour comprendre plus précisément ce que contient cet accord, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Elvire Fabry, politologue, chercheuse à l'Institut Jacques Delors et spécialiste des négociations commerciales et donc du Brexit. Bonjour Madame Fabry.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Alors au début du mois de décembre, tout le monde s'accordait pour dire qu'on allait tout droit vers un no deal. Quels étaient les sujets de blocage entre les deux parties et quelles concessions ont-elles faites pour surmonter leurs désaccords ?
Écoutez, dans la dernière ligne droite des négociations, les deux sujets qui se sont imposés, c'était d'abord le fait d'introduire dans cet accord des conditions de concurrence équitable, parce que les Européens ont eu à cœur de ne pas offrir des bénéfices au Royaume-Uni sans contrepartie d'obligations trop avantageuses par rapport à d'autres pays tiers qui sont déjà très intégrés dans l'Union européenne. On pense évidemment à la Norvège, à la Suisse, la Turquie qui a une union douanière et qui regarde d'aide très près ces négociations. Donc, ne pas créer un précédent dans ce qui est finalement la gestion de ce premier divorce, comme vous l'avez évoqué, avec la sortie d'un État membre de l'Union européenne. Alors, c'est ce qu'on appelle le « level playing field » en anglais et qui est aujourd'hui au cœur de l'agenda européen qui vise à protéger le marché unique, ne pas créer de distorsion de concurrence en laissant finalement un pays comme le Royaume-Uni, qui est une grosse économie, très intégrée dans les chaînes de production, les différents États membres de l'Union européenne, pouvoir finalement tirer avantageusement parti d'un accès au marché unique pour les biens, tout en ayant une flexibilité réglementaire dans le domaine environnemental, social, les aides d'État, qui puisse favoriser une compétitivité et donc des distorsions de concurrence vis-à-vis des entreprises du continent. Ça a été la préoccupation centrale de la fin des négociations et la France était particulièrement ferme dans la fin de ces négociations sur ses objectifs de concurrence équitable et a été on a fait une condition pour conclure ces négociations pour à la fois pouvoir mettre en place un mécanisme de surveillance, d'évaluation dans les différents domaines de réglementation pour maintenir chez le partenaire britannique des normes ce qui a finalement été conclu, ça a été un principe de non-régression par rapport aux normes actuelles, donc aux normes européennes, à la fois pour les normes environnementales et sociales, et une surveillance particulière en matière d'aide d'État, une question qui, on le sait, dans les années qui viennent, va être particulièrement délicate.
On va revenir sur la surveillance et sur ce qui va se passer après cet accord. Mais avec cet accord commercial, on évite donc le saut dans le vide. Boris Johnson prétend, alors ça c'est Boris Johnson, avoir obtenu le beurre et l'argent du beurre, le libre accès au marché commun et le retour à la souveraineté britannique. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation ?
On comprend que c'était même une nécessité politique pour Boris Johnson de pouvoir consacrer le premier jour d'effectivité du Brexit par un cri de victoire En fait, comme ça a été présenté par Michel Barnier, c'est un accord dans lequel les deux parties sont perdantes-perdantes, puisque en fait, on rétablit des frictions, des complexités, beaucoup d'incertitudes, énormément d'exceptions dans lesquelles les acteurs économiques vont devoir essayer de trouver un peu de clarté, et ça va être compliqué sur les mois et les années qui viennent. En même temps, j'ai envie de dire, de prendre le contre-pied en disant, on est au moins gagnant-gagnant en ayant un accord à minima par rapport à un no deal. Il est évident que no deal, c'était le scénario de confusion le plus total, parce qu'au-delà de la question du retour des tarifs et des quotas, c'est toute une série d'enjeux qui sont abordés dans cet accord et qui permettent d'éviter la page blanche. On le voit à propos des qualifications professionnelles, la question des services, la participation aux agences européennes ou pas, la question des transferts de données, toute une série de questions qui finalement ne sont pas réglées dans l'accord, mais qui donnent un cadre de négociation ou des clauses de rendez-vous auxquelles il faudra se retrouver pour voir si les Européens accordent des principes d'équivalence ou pas, notamment comme sur cette question des transferts des données et de la protection des données personnelles.
Restons sur les certitudes. Alors, quelles sont les certitudes que nous donne cet accord, puisqu'il y a pas mal d'incertitudes, comme vous venez de le rappeler. Dans ces 1300 pages, on est sûr de quoi, finalement?
On est sûr de quoi? À l'heure actuelle, on est sûr qu'il n'y a pas de retour de droits de douane et de quotas qui s'appliquent dans le secteur des biens manufacturiers et puis dans tout ce qui est même produits agricoles, donc alimentaires. On est sûr également que les contrôles sont rétablis à la frontière puisque le Royaume-Uni a choisi une option de Brexit dure, donc de ne pas rester aligné. De ne pas s'engager à rester aligné sur les normes techniques européennes, et notamment dans le domaine agroalimentaire, ce qui veut dire qu'en fait, tous les produits britanniques qui rentrent dans le marché unique européen doivent faire l'objet d'un contrôle, d'une certification, d'un contrôle. Et donc, c'est à la fois plus de démarches administratives pour les acteurs économiques, c'est des délais à la frontière, qui pour le moment, ces derniers jours, ont pu être évité parce que il y avait quand même, c'est tout l'intérêt de la période de transition qu'on a eue pendant un an, ça a été de permettre aux acteurs économiques d'anticiper ce moment de bouchon du passage au 1er janvier 2021 en cas d'accord et d'essayer de fluidifier un petit peu les choses. Maintenant, on va voir sur les mois qui viennent comment ça se passe. Mais ce que ça veut dire, c'est que la réalité du Brexit va véritablement prendre forme dans les mois qui viennent. En voyant quel va être l'impact de ces frottements, de ces nouvelles frictions sur toutes les chaînes de production. Parce que vous le voyez dès à présent, les distributeurs britanniques qui s'inquiètent de voir que les camions qu'ils faisaient venir de produits qu'ils importaient de l'Union européenne et qu'ils acheminaient et qu'ils redistribuaient notamment vers la République d'Irlande, puisque c'était l'autoroute, si je puis dire, d'approvisionnement vers la République d'Irlande, qui, étant un État membre, doit appliquer des contrôles aux frontières avec un coût supplémentaire et qui s'inquiète déjà des pertes que ça va représenter pour eux dès à présent en impactant directement leur filière.
Et la pandémie ne doit pas faciliter les choses non plus actuellement dans la circulation des marchandises, je dirais.
On peut imaginer volontiers qu'un Boris Johnson ait dans la tête que le coût du Brexit soit dilué dans le coût de gestion de la pandémie et de crise économique. Et je dirais la question, il faut un peu la renverser aujourd'hui en se demandant jusqu'à quel point ces frottements du Brexit choisis par les Britanniques vont rendre plus difficile encore la relance économique du Royaume-Uni et évidemment. Impacter quand même les États membres, même si le coût pour les États de l'Union européenne est bien moins important que pour le Royaume-Uni lui-même. Donc c'est vrai que ça va compliquer beaucoup les choses.
Il y a une chose aussi qui est surprenante, c'est que un secteur important de l'économie britannique, les services financiers, sont finalement très peu traités dans cet accord, alors qu'au début du Brexit, on disait que c'était un des points importants pour le Royaume-Uni et que c'était un des points forts pour l'Union européenne, puisqu'ils avaient besoin de règles pour notamment le passeport financier, pour faire circuler leurs services financiers. Comment vous expliquez, certains disent que Boris Johnson aurait abandonné la City. Est-ce que vous le voyez comme ça, ou comment vous expliquez le fait que ce soit si peu traité dans l'accord ?
Boris Johnson a eu une gestion politique du Brexit, donc il s'est concentré sur tous les enjeux qui avaient trait, si je puis dire, de plus près à la souveraineté, ou qui illustraient la reprise de souveraineté complète du Royaume-Uni. On pense évidemment à la question de la pêche elle-même, puisque c'était l'objectif, c'était de retrouver l'autonomie réglementaire, le contrôle des frontières en mettant un terme à la libre circulation des personnes et le contrôle des eaux britanniques, en laissant de côté les enjeux qui sont au cœur de l'économie britannique. Il faut rappeler que c'est 80% de l'économie britannique qui repose sur le secteur des services. Et comme vous venez de le dire, ce n'est pas une question qui est traitée, qui est réglée par l'accord comme l'est celui des secteurs manufacturiers. Dans le secteur des services, le Royaume-Uni s'expose aujourd'hui à devoir vérifier avec chaque État membre quelles sont les réglementations spécifiques par secteur et par profession. C'est vrai pour les architectes, c'est vrai pour les comptables. C'est une multiplicité de règles par État membre qui va compliquer l'installation et la pratique des activités de service. Et puis, il y a évidemment la question essentielle des services financiers, la City, vous venez de l'évoquer également. C'est quand même près de 7% du PIB du Royaume-Uni qui prend appui sur la City. Michel Barnier, négociateur européen, l'avait dit clairement dès le départ, à partir du moment où le Royaume-Uni renonce à la liberté des personnes et donc au principe d'indivisibilité des quatre libertés des biens, des personnes, des capitaux et des services, les Britanniques perdaient le passeport financier qui leur permet de pratiquer librement toutes leurs activités de services financiers et en sont réduits à obtenir de la part de l'Union européenne un principe de reconnaissance d'équivalence des réglementations adoptées de part et d'autre. Mais c'est une décision qui n'est pas de la reconnaissance mutuelle, donc c'est une décision unilatérale que les Européens peuvent suspendre à tout moment et qui assure beaucoup, d'une part, qui assure beaucoup moins de stabilité pour les acteurs et puis qui ne couvrira pas tous les services financiers. Et là, pour ça, il y a une clause de rendez-vous qui est donnée fin mars et pour laquelle on attend de voir ce que les Européens vont accorder aux Britanniques.
Mais c'est un peu une des incertitudes qu'a cet accord, c'est que finalement, on n'est pas sûr de la bonne application. C'est tellement lourd et tellement complexe qu'il pourrait y arriver à ce qu'on s'en soit un peu à une négociation permanente de ce texte, de son interprétation, voire peut-être une interprétation conflictuelle par des recours assez réguliers. Comment vous voyez ça au vu de votre expérience des accords commerciaux déjà négociés par l'Union européenne? Est-ce qu'on va se retrouver avec des négociations continuelles comme ça l'est avec tous les accords bilatéraux qu'on a avec la Suisse?
Et je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, ce qui doit encore être complété dans l'accord ou à côté de l'accord, qui n'est pas couvert par l'accord. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux et que les négociateurs ont déjà fait une prouesse de négocier tout ce qu'il y a dans ces quelques 1300 pages en 10 mois. Et c'est dû notamment à la façon dont les Européens ont séquencé et organiser cette négociation. Et puis, il y a toute une série de clauses qui permettent, en effet, de régler des différends, des disputes, qui vont être activées en cas de divergence des Britanniques. C'est-à-dire que pour le moment, les Britanniques se sont mis dans la position de rester alignés sur les normes européennes parce qu'ils le veulent bien, mais tout en gardant la liberté de diverger s'ils le souhaitent. Mais la conséquence immédiate d'une divergence réglementaire dans toute une série de domaines, ce serait qu'ils perdent un accès préférentiel au marché unique, ou qu'ils perdent des principes d'équivalence, ou que des qualifications professionnelles ne font plus l'objet de reconnaissance mutuelle. Là, en fait, c'est une logique de bénéfices et de coûts qui va se vérifier au fur et à mesure lorsque l'on mettra en application les principes de notamment la clause de rééquilibrage qui a été inscrite dans l'accord et qui permet d'appliquer des sanctions immédiates si l'on peut évaluer qu'une divergence réglementaire a un impact en matière de concurrence et crée une distorsion de concurrence.
C'est un tribunal arbitrage qui fait ça ou c'est directement les parties qui peuvent l'instaurer?
Ça n'est pas le système d'arbitrage classique et qui recouvre. En fait, là, il y a différentes choses. Selon les points qui sont le cas de dispute qu'il y a dans l'accord, on peut faire appel soit à un arbitrage qui relève du niveau de l'OMC, soit au mécanisme d'arbitrage entre États qui couvre une grande partie de l'accord, soit à ces mesures immédiates, en fait, qui seraient d'abord des mesures tarifaires, des droits de douane, qui pourraient être appliqués directement avant qu'une décision soit formulée par un arbitrage ad hoc à ce moment-là.
Et il y a des conséquences cette fois-ci assez pratiques, je dirais, tout de suite, c'est sur la libre circulation des personnes, des voyageurs, des étudiants. Quelles sont-elles et exactement ces répercussions concrètes que l'on va vivre tout de suite, mais en tant que particulier?
Alors, il y a les droits des résidents qui étaient déjà installés de part et d'autre avant le 1er janvier et qui ont été couverts par l'accord de retrait qui avait été signé l'année dernière et qui visait à protéger à la fois les intérêts des citoyens européens au Royaume-Uni et des Britanniques dans l'Union européenne. Et pour tout cela, à la fois en termes de circulation, de résidence, ils doivent demander un permis de résidence, mais la possibilité pour eux de rester installés a été facilitée, et également la reconnaissance de leur qualification professionnelle, la façon dont ils exercent leur profession. Maintenant, pour ce qui est de la circulation des personnes à partir du 1er janvier, elle est facilitée pour tous les courts séjours, moins de 90 jours sur une période de 180 jours. Il suffira d'avoir son passeport plutôt qu'une carte d'identité. Évidemment, il va y avoir des petits frottements, on va perdre la portabilité des abonnements de téléphone, le fameux roaming, ou la portabilité de services de services numériques.
Ils vont être de nouveau géobloqués, c'est ça, genre Netflix, ce genre de choses-là, on ne pourra plus l'utiliser.
Voilà. Oui. Exactement, des petites complications si vous prenez avec vous votre animal de compagnie où il faudra avoir un passeport de santé.
Mais je crois aussi que même la carte d'assurance maladie européenne elle ne pourra plus être utilisée. C'est bien ça. C'est-à-dire que si on se blesse à l'étranger au Royaume-Uni, les frais ne seront pas automatiquement pris en charge de la manière actuelle avec la carte d'assurance maladie européenne.
Alors, en termes de portabilité des droits sociaux, l'accord va assez loin. Il a été à la fois pour des situations de maladies lourdes, graves, qui nécessitent des soins réguliers où on peut à ce moment-là, si on est au Royaume-Uni, bénéficier d'une dialyse et qui sera couverte parce qu'elle est indispensable. La portabilité des droits sociaux va assez loin. Là où ça se complique en fait beaucoup plus, c'est pour l'installation de manière plus durable et notamment pour exercer une activité professionnelle, d'une part du côté du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a mis en place un mécanisme de droit d'installation, enfin de politique d'immigration à point, qui, avec des critères où il faut avoir bénéficier d'une offre d'emploi, un salaire minimum de 26 000 livres annuels. Il y a un certain nombre de critères qui sont établis et qui sont des critères exigeants. Le Royaume-Uni mise sur l'attractivité d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Et réciproquement, les Britanniques qui voudraient s'installer dans l'Union européenne sont confrontés à toute la diversité des conditions spécifiques par État membre. Ça n'est pas quelque chose qui était réglé dans l'accord. Et s'ils veulent se déplacer dans l'Union européenne ou s'installer de manière durable dans tel ou tel État membre, il faudra à chaque fois qu'ils demandent soit des visas, soit des permis des droits de séjour, avec une exception notable qui est l'exception en particulier des artistes et des professionnels sportifs qui ne bénéficieront pas de la liberté de circulation sans visa pour une période de moins de 90 jours. Et là, on pense aux artistes qui notamment doivent faire des tournées, prévoient de faire des tournées dans différents États membres de l'Union européenne et qui devront demander un visa pour chaque État membre s'ils veulent pouvoir se déplacer.
Avant de terminer l'émission, j'aimerais également avoir votre opinion, mais cette fois-ci sur un autre sujet que le Brexit. C'est sur une autre négociation, je dirais commerciale, ou on appelle plus d'investissement, sur l'accord de principe entre l'Union européenne et la Chine qui a été adopté, pas adopté, puisqu'il y a un accord de principe à la fin du mois de décembre. On peut être surpris par le timing et la stratégie européenne, la crise sanitaire, mais aussi les critiques de plus en plus présentes sur la question des droits de l'homme et du travail forcé en Chine. Comment vous expliquez que l'Union européenne ait souhaité négocier un accord d'investissement avec la Chine en ce moment?
Alors, il faut préciser que cet accord, la négociation de cet accord est engagée depuis 7 ans. C'est vrai que là, l'annonce de la signature a surpris d'une certaine façon parce qu'on ne suivait pas toutes ces dernières années, ces derniers mois, l'évolution de ces négociations. Mais il est dans le tube depuis 7 ans. Donc, c'est plus une question de momentum, de dynamique des négociations qui a fait que, à la fois du côté européen et du côté chinois, il y a eu la volonté de conclure en l'état cet accord, qui, je pense, il faut voir comme une étape, non pas une fin en soi. D'ailleurs, c'est, semble-t-il, un accord qui ne fait que une centaine de pages. Ça n'est pas un accord très vaste, c'est un accord qui engrange le résultat de ces négociations. Alors, c'est vrai que là, il y a une certaine tension qui se focalise sur la question de la défense des droits de l'homme, parce que c'est une question qui préoccupe, non seulement préoccupe, de plus que jamais les Européens, puisque c'est au cœur de l'ensemble des valeurs européennes qui sont inscrites dans la construction de l'Union européenne, et que l'on a de plus en plus d'informations sur les camps ouïghours en Chine et une déclinaison du non-respect de ces droits en Chine. Maintenant, je crois qu'il faut évaluer la façon dont on négocie avec la Chine. Dans cet accord, ce n'est pas un accord commercial, donc ce n'est pas un accord qui a du tout la portée d'autres accords commerciaux comme ceux que l'on a signés avec le Canada, avec le Japon. C'est un accord d'investissement dont la priorité des Européens, c'est d'une part d'établir des conditions de concurrence plus équitables avec les acteurs chinois, c'est-à-dire un accès plus réciproque entre le marché européen et le marché chinois. Donc il y a une question d'accès au marché. Et puis, il y a une question de règles, là aussi, de traitement plus équitable entre les entreprises chinoises et les entreprises européennes lorsqu'elles s'installent dans le marché chinois. Et c'est là où on revient à cette question de concurrence équitable, de l'even playing field qui a été au cœur des négociations du Brexit. La préoccupation des Européens toutes ces dernières années, ça a été de s'attaquer à ces distorsions de concurrence que pratique la Chine, avec notamment des entreprises d'État qui bénéficient de subventions illimitées. Et une question à laquelle Donald Trump, de son côté, avait complètement éludé dans sa négociation minimale avec la Chine, en s'en tenant à négocier des accords, des volumes plus importants d'importation de biens américains en Chine. Au contraire, les Européens veulent se concentrer sur des réformes plus structurelles. Alors, l'accord dont on n'a pas encore accès au texte, mais dont on a les grandes lignes à l'heure actuelle, ne va évidemment pas aussi loin qu'on le souhaiterait et que le pointent les objectifs européens. Et le signal intéressant, c'est la façon dont il maintient la Chine dans une logique de négociation et encore une fois, d'établissement de conditions de concurrence plus équitables. Ça n'empêche qu'il faut le concevoir comme une brique dans un processus continu et que les Européens attendent l'arrivée enfin le début de la présidence Joe Biden pour construire une coopération transatlantique qui puisse exercer une pression supplémentaire sur la Chine. Ça fait 4 ans qu'ils tenaient la main du côté de Washington pour peser ensemble du côté de la Chine et pousser la Chine à s'engager dans des réformes. On voit bien qu'il y a une méfiance de Washington à l'égard de cet accord qui les prend un peu de court. Mais c'est intéressant, il me semble, de la part de l'Union européenne de maintenir sa stratégie qui finalement relève un peu de la nouvelle approche européenne d'autonomie stratégique, d'exercer à la fois une pression vis-à-vis de la Chine et de garder un accès au marché chinois tout en cherchant à mobiliser d'autres grandes puissances, et en commençant par les États-Unis, mais également le Japon, le Canada ou d'autres pays, pour pousser la Chine à accepter plus de réformes sur ces enjeux de distorsion commerciale et d'engagement sur des valeurs environnementales, sociales, les droits du travail et les droits de l'homme, in fine, qui sont chers aux Européens.
Pour conclure, on va terminer notre émission. Si vous aviez un vœu, puisqu'on se retrouve pour cette émission au début du mois de janvier, un vœu à souhaiter à l'Union européenne pour cette nouvelle année, quel serait-il?
Qu'elle continue à afficher la cohésion qu'elle a inscrite dans le marbre à travers son projet budgétaire et la mutualisation de la dette, et qui a véritablement donné, il me semble, un nouvel élan de solidarité aux Européens, malgré toutes les divisions initiales que la pandémie avait pu provoquer, et continuer à construire ce sentiment d'une identité et d'une force européenne un peu plus fière d'elle-même dans un monde qui est bien chaotique à l'heure actuelle.
Merci Elvire Fabry pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes chercheuse, politologue à l'Institut Jacques Delors et spécialiste du Brexit. C'était donc Fréquence Europe, une émission européenne de Radio Judaïka réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. À bientôt.